Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission du mois d'octobre. Et une émission consacrée, comme depuis des années, je dis à chaque fois sur l'antenne de Principe Actif, à la promotion et à la défense des droits humains. Et la promotion et la défense des droits humains, c'est vraiment un sujet important. De plus en plus important parce que ce sont des préoccupations qui ont tendance à être, par beaucoup de responsables politiques et autres, qui ont tendance à être minimisées, voire reniées, voire certaines déclarations récentes de notre nouveau ministre de l'Intérieur, par exemple. Voilà, donc c'est important de rester mobilisé sur ces sujets-là, parce qu'une société qui ne respecte pas les droits humains, il y en a plein dans le monde à l'heure actuelle, et ça n'aboutit qu'à des massacres, à des violences, et etc., etc. Voilà. Et pour animer l'émission ce soir, il y a avec moi Edith.
Bonsoir.
Et il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Et donc, juste avant de laisser la parole à Claire-Lise, c'est elle qui va commencer sur le premier sujet. Mais je voulais déjà vous signaler que le vendredi 25 octobre prochain, donc vendredi de la semaine prochaine, on fait une soirée spéciale ciné-débat chez nos amis de la Brasserie Sport à Gravigny, 13 rue de la Mairie, pour ceux qui ne les connaissent pas. Mais enfin, ils sont très connus maintenant. Et on présente un film produit par Amnesty International France qui s'appelle « Présumé coupable » et qui parle de la répression des manifestations en France. Alors, je ne vous en dis pas plus, c'est à 19h30, l'entrée est gratuite. Je ne vous en dis pas plus, on vous en dira davantage à la fin de l'émission. Donc, restez avec nous jusqu'à 20h. Voilà, et je laisse la parole à Claire-Lise.
Alors, je vais vous parler d'un sujet qui est pas forcément le plus réjouissant du monde, mais le 10 octobre de cette année, c'était la deuxième fois qu'il y avait une journée mondiale pour soutenir l'abolition de la peine de mort. Donc, tous les 10 octobre, depuis l'an dernier, depuis le 10 octobre 2021, donc il y a une journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort. Homicide volontaire et prémédité, la peine de mort est un châtiment cruel et inhumain. Un assassinat orchestré par l'État. Les pays qui la maintiennent dans leur législation y recourent souvent en pensant que ce châtiment peut renforcer la sécurité de leur population et de leur communauté. Il s'agit pourtant d'une idée fausse. La peine capitale n'a pas d'effet dissuasif sur la criminalité. En 2024, elle continue d'être appliquée dans de nombreux pays, sur tous les continents. En cette journée internationale pour l'abolition de la peine de mort, agissez aux côtés d'Amnesty International pour soutenir l'abolition universelle. Et donc je vais reprendre un petit peu quand même une petite partie sur les définitions de la peine de mort. L'humanité fait chaque année un pas de plus vers l'abolition universelle de la peine de mort, mais elle reste néanmoins appliquée dans de nombreux pays, sur tous les continents. La seule alternative civilisée au désir de vengeance, c'est de faire justice, de charger un tribunal indépendant et impartial de mener un procès équitable et de punir ceux qui auront été déclarés coupables. À défaut de procès équitable, les sentiments de haine et de rancœur à fleur de peau ne manqueront pas d'exploser tôt ou tard et d'aboutir à de nouvelles violences. Ça, c'est une déclaration du premier président du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et la peine de mort, c'est l'ultime peine. C'est un traitement cruel, inhumain et dégradant. Son application, l'exécution, est menée par des fonctionnaires en conformité aux lois de l'État. C'est un homicide volontaire et prémédité. C'est un assassinat étatique. La peine de mort, c'est une violation du droit à la vie ainsi que du droit de ne pas être soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels qu'ils sont inscrits dans les articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la DUDH. Donc elle doit donc être combattue avec force et conviction. Et juste vous rappeler aussi qu'il ne faut pas confondre la peine de mort et les exécutions sommaires ou extrajudiciaires. L'exécution extrajudiciaire, ça consiste à priver arbitrairement une personne de sa vie en l'absence de tout jugement d'un tribunal compétent indépendant ou de tout recours. Elle est strictement interdite par le droit international en période de paix comme en situation de conflit. Alors que la peine de mort, c'est prévu dans la loi des pays. C'est une peine qui est appliquée par les tribunaux. Voilà. Et juste, donc, je vais peut-être vous donner les chiffres de 2023, excusez-moi. Alors, en 2023, 1153 personnes ont été exécutées. C'est le chiffre le plus haut que nous ayons enregistré depuis 10 ans. Les exécutions ont augmenté de 30% par rapport à 2022. Alors, la plupart des exécutions dont nous avons eu connaissance ont eu lieu par ordre décroissant en Chine, en Iran, en Arabie Saoudite, en Somalie et aux États-Unis. En Iran, le nombre d'exécutions signalées est de 853 personnes. Sur l'ensemble des exécutions comptabilisées en Iran, au moins 545 étaient liées à des actes qui ne devraient pas être passibles de la peine de mort au regard du droit international, y compris des infractions à la législation sur les stupéfiants, des vols et des actes d'espionnage. Aux États-Unis, les procès ont été mis à mal par une hausse du nombre d'exécutions, lequel est passé de 18 à 24. En Somalie, le nombre d'exécutions recensées a plus que triplé, passant de 11 en 2022 à 38 en 2023. Une fois de plus, c'est en Chine qu'ont été enregistrés, exécutés le plus grand nombre de condamnés. Toutefois, il s'avère impossible d'obtenir des chiffres précis sur l'application de la peine capitale dans le pays, ces données étant classées secret par l'État. De même, nous n'avons pas pu établir des chiffres pour la Corée du Nord, ni le Vietnam, des pays dont on pense qu'ils procèdent à de nombreuses exécutions. Malgré ce contexte peu réjouissant, 2023 n'a pas démenti la tendance mondiale qui a vu le nombre de pays abolitionnistes grandir chaque année. Des exécutions ont été recensées dans 16 pays, soit le nombre le plus bas jamais enregistré par Amnesty International. Aucune exécution n'a été comptabilisée au Bélarus, au Japon, au Myanmar, ni au Soudan du Sud, alors que ceux-ci faisaient partie des pays ayant procédé à des mises à mort en 2022. Voilà. Pour cette partie, je vais m'arrêter. Dans la deuxième partie de l'émission, je reviendrai sur la peine de mort en France et le combat contre la peine de mort en France, avec quelques grands noms. Et puis, dans la troisième partie, sur les actions d'Amnesty, pour justement lutter et pour l'abolition universelle de la peine de mort et des appels à des actions.
Ben merci Claire-Lise. Et quand tu dis dans la deuxième et troisième partie, c'est bien sûr au cours de cette émission d'aujourd'hui.
Hein,
c'est
mais oui, forcément. Voilà. Ben oui, il n'y a que toi pour imaginer que ça soit un autre jour.
Il faut bien préciser pour tous ceux qui nous écoutent, donc restez à l'écoute puisque Claire-Lise n'a pas fini.
Et oui, je ne fais que ça aujourd'hui.
Son dossier.
Mais en une seule fois, c'était peut-être un peu plombant.
Son dossier
l'abolition de la peine de mort.
Effectivement. Donc voilà, alors on va complètement se changer de sujet, on va vous parler un petit peu d'Iran à travers un film qui est visible en ce moment sur la plateforme de France TV. Mais pour présenter ce film, donc on va vous passer
tout de suite un petit audio
que j'ai récupéré sur Internet.
Et ce fut difficile, Didier a travaillé pour
voilà,
le récupérer.
Et on vous expliquera ce qu'il en ressort juste après.
Je peux pas vous dire comment je m'appelle. C'est la faute de mon gouvernement. Je peux pas vous montrer mon vrai visage non plus.
Donc le visage que vous voyez à l'écran, vraiment l'ovale du visage, strictement, pas ce qu'il y a autour, c'est un visage qui a été transformé à l'intelligence artificielle pour anonymiser Sarah. Sarah, dans sa vie, elle est étudiante en filière scientifique. Là encore, je peux pas donner trop de détails. Et elle travaille dans deux cafés, dans une grande ville iranienne. C'est une jeune femme qui fait partie de la petite classe moyenne, qui a été élevée par une maman célibataire. Elle symbolise vraiment la jeunesse Femme, vie, liberté, l'Iran, à ce moment-là, quand on a commencé à tourner, avait mis l'intégralité, la quasi-intégralité des cadreurs en prison, ou alors ils étaient suivis. Donc en fait, il fallait faire tourner sur place des gens qui n'étaient pas des professionnels.
J'ai peur de filmer, parce que je sais qu'ils peuvent détruire ma vie en une nuit.
Voilà, donc cet audio qu'on voulait vous passer, c'est Clarisse qui va vous en dire un peu
non,
plus.
Non, c'est
vous...
pas Clarisse.
Pas Clarisse, pardon.
Mais c'est pas grave, c'est Edith, Clarisse.
En fait, je peux le faire.
Voilà, qui va vous en dire, c'est Edith qui va vous en dire un peu plus. Pourquoi
oui,
on
oui,
vous
oui.
a passé ce petit
voilà,
son.
Alors cet audio, bah, écoutez, j'ai trouvé l'info. Alors, c'est un reportage qui paru déjà au printemps, mais qu'on n'a pas vu, nous, donc on ne connaissait pas. Et j'ai trouvé cette info parce qu'il mettait la force de l'IA pour protéger des gens, des témoins. Et donc, c'est ça qui m'a attiré le regard. Et quand j'ai été voir, en plus, ce documentaire-là et a été proposé au Festival de Bayeux des reporters de guerre, hein, qui vient d'avoir de finir, là. Et donc, je vous raconte un petit peu l'histoire de Sarah. Donc là, vous avez juste eu le début. Donc, Sarah, elle a envoyé pendant tout un moment des bouts de films où on voit des jeunes Iraniens se faire frapper. Elle filme les visages des adolescents tués dans les manifestations au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Et c'était une façon de contourner l'interdiction faite aux caméras étrangères de tourner dans le pays. Sarah doit cacher son identité car au moment où on a commencé le tournage, le régime iranien avait mis en prison 17 000 personnes. Leur moyenne d'âge était de 19 ans. Il faut comprendre qu'il y avait de la part du régime iranien la volonté de persécuter, de traquer sa jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui a porté le mouvement Femmes, Vie, Liberté. C'est ce que nous explique la réalisatrice Solène Chalvon-Fiori. Alors, cette jeune femme est un grand reporter. Elle a été correspondante pendant de nombreuses années au Pakistan, en Afghanistan, et elle a aussi travaillé en Iran. Elle ne connaît pas grand-chose à l'intelligence artificielle, mais décide de se lancer car c'est la seule façon de convaincre Sarah de témoigner. Sarah, si on ne transforme pas son visage, on ne peut pas avoir sa parole. Sa parole n'existe pas. Dans le film, on voit que Sarah se promène en Iran. Elle nous emmène voir des gens que jamais on n'aurait pu aller voir autrement, notamment des classes religieuses. Ce ne serait pas possible de faire tout ça si elle n'était pas cachée. Au total, dans ce reportage, ce sont 6 témoins de moins de 25 ans qui livrent leur récit dans ce film et toutes ont un faux visage. La journaliste nous explique que souvent, on lui demande pourquoi elle n'a pas simplement utilisé le floutage pour les anonymiser. Il manque une syllabe. Elle tient à répondre une bonne fois pour toutes. Il faut savoir que n'importe quel humain, à un moment, se lasse de regarder cette espèce de paquet de beurre. Et si j'avais appliqué un flou léger, eh bien maintenant, justement à cause de l'utilisation de l'IA dans le rôle le plus maléfique, on peut recroiser les traits et redessiner un visage. Alors dans ce documentaire, les visages conçus par l'intelligence artificielle, c'est une première en France. Sarah m'a fait confiance. Et ce que note aussi la journaliste, c'est que les bénéfices de l'IA ne sont pas ancrés dans la culture française. Mais il faut dire que pour Sarah, au début, ce côté bénéfique ne l'était pas non plus dans la sienne. Car elle m'a vraiment demandé, mais qui verra mon vrai visage? Qui travaillera l'intelligence artificielle sur mon visage? Comment je peux être sûre que mon visage ne va pas fuiter? Ce sont des vraies questions auxquelles j'ai tenu à répondre. Alors, ce qu'elle note aussi, c'est que Sarah, elle a choisi un très joli visage. Et quand on sait la répression en Iran pour les femmes, voilà, on peut trouver aussi que c'est une façon d'exprimer sa féminité en plus. Donc, ce téléfilm de témoignage, vous pouvez le retrouver. Donc, Didier l'a dit. Donc, allez-y, parce que c'est avant le 25 octobre sur la plateforme de France Télé et c'est sur la chaîne France 5. Je vous rappelle son nom, Nous, Jeunesse d'Iran.
Alors, petit sous-titrage au passage, quand Edith vous parlait de IA, c'est l'intelligence artificielle.
Je crois l'avoir dit.
Bien sûr.
Voilà. Ah, je vous donne aussi quand même le nom de parce que Amnesty est régulièrement présent au prix de Bayeux pour les reportages de guerre. Et il y a un prix Amnesty. Donc, c'est Mohamed Abou Safia et John Irvin de ITV News pour le drapeau blanc à Gaza, qui ont eu le prix Amnesty. Et vous allez chercher pour les autres, parce qu'il y a plein de prix, et le premier, il y en a pas mal sur Gaza, et effectivement, ce reportage-là a aussi une très bonne place. Alors, vous savez, moi, l'IA, c'est quand même quelque chose qu'on dénonce assez souvent. Donc là, c'est aussi quand même quelque chose de très important de se dire que l'intelligence artificielle, ça fait peur, mais dans le cadre de la protection des sources, chose qui nous anime profondément, nous, les journalistes, c'est un cadeau. Voilà.
Ça montre bien ce qu'on a déjà dit, mais c'est important. Ça montre bien qu'en fait, des outils comme l'intelligence artificielle ne sont que des outils et qu'ils peuvent servir le pire comme le mal.
C'est ce qu'elle disait. Voilà, le rôle
le
maléfique,
le mieux, pardon,
recherché.
Tout dépend de ce qu'on en fait. Et qui en fait quoi ? Ce sont les êtres humains.
Donc, voilà. Pour être quand même fidèle à ce que j'aime bien dénoncer dans tout ce qui est nouveaux médias, je vais vous donner deux nouvelles de Big Brother. Alors là, l'Internet, les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'on a envie de voir régulièrement. Donc, au Japon, souriez ou vous êtes viré. Il s'appelle Mr. Smile. C'est un logiciel de reconnaissance faciale et comportementale. Grâce à 450 critères qui dissèque les expressions faciales, ton des salutations et le volume de la voix, il est capable d'évaluer le sourire d'une personne. Voilà, on pourrait dire, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose qui peut exister, mais pour la première fois au monde, il va être utilisé pour celui des salariés. C'est la grande chaîne AEON, je ne sais pas comment ça se prononce, AEON, qui a imposé au Japon ce système aux employés de ses 240 supermarchés. Pour les noter en fonction de leur sourire. L'objectif, c'est satisfaire au maximum la clientèle. Donc là, réfléchissez bien. Je ne suis pas sûre que ça soit le bon côté de l'IA quand même et puis des logiciels.
Souriez, vous êtes filmé.
Voilà, mais souriez, vous pouvez être viré là. Alors bon, allez, une autre. Ouais, quand même, et puis après j'arrête. Chine, bas les masques. Les cambrioleurs et les fraudeurs en raffolent. Le masque facial en silicone est devenu leur indispensable allié pour déjouer les caméras de vidéosurveillance et les systèmes de reconnaissance faciale dont usent et abusent les autorités contre les civils en Chine. En vente libre sur Internet, des vendeurs se vantent même de pouvoir fabriquer une réplique parfaite de n'importe quelle personne à partir d'une simple photo. Celle d'un voisin, d'un collègue, de quelqu'un qu'on n'aime pas, enfin vous choisissez. Et le phénomène prend une telle ampleur que les autorités, dépassées par les vagues de cambriolage, alertent contre le risque social de ce piratage de visage. Donc là aussi, voilà. Bon, pour la Chine, on trouve que quand même c'est un petit retour, par rapport à la surveillance qu'il y a partout.
C'est une façon qu'ils ont trouvé, effectivement, de déjouer cette surveillance.
Mais on n'est pas pour les cambrioleurs, hein, le dit tout de suite. Hein.
Bien évidemment.
Allez.
Bien évidemment. Donc, on va écouter la première pause musicale. C'est une chanson consacrée aussi au mouvement de protestation Femme, Vie, Liberté en Iran, qu'on vous a déjà passé, mais qu'on vous repasse avec beaucoup de plaisir.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای هاینده، برای شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International pour la suite de son émission. On vient d'écouter, comme je vous disais, une chanson en soutien aux luttes des femmes en Iran et qui est chantée par un artiste iranien qui s'appelle Shervin Hajipour et qui avait été condamné, pour, entre autres pour cette chanson, mais pas que, à la peine de mort. Elle avait été arrêtée, condamnée à la peine de mort l'année dernière, et en luttant pour ses droits, ce qu'on a fait bien sûr, on n'a obtenu que, dans un premier temps, sa peine de mort soit transformée en peine de prison. Donc on continue à demander sa libération, mais il n'est plus condamné à mort. Voilà. Clairelise, je crois que tu voulais continuer sur la,
oui,
la thématique de l'abolition,
oui,
de la peine de mort.
Alors je vais vous parler justement du long chemin vers l'abolition de la peine de mort en France. Donc, parce que c'est depuis long, ça fait très très longtemps quand même qu'il y a des textes, hein, et qu'il y a des gens qui bataillaient pour la peine de mort. En 1791, en France, il y a eu une réforme du code pénal et les premiers débats sur l'abolition de la peine de mort ont été lancés. C'est aussi le début du recours à la guillotine.
Monsieur Guillotin.
Voilà,
merci.
Entre autres. Et un autre fait marquant, je vous passe tout, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dates. En 1829, en France, il y a la publication du livre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, dans lequel l'auteur plaide pour l'abolition de la peine de mort. Et je vais vous lire une citation de Victor Hugo. « Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Voyez, examinez, réfléchissez. Vous tenez à l'exemple. Pourquoi ? Pour ce qu'il enseigne ? Que voulez-vous enseigner avec votre exemple ? Que ne faut-il pas tuer ? Qu'il ne faut pas tuer ? Et comment enseignez-vous qu'il ne faut pas tuer ? En tuant. Bon, voilà. Et puis, bien sûr, pour en venir je fais un gros saut dans le temps, hein, pour en arriver au 9 octobre 1981, en France, à la promulgation de la loi portant abolition de la peine de mort, sous la présidence de François Mitterrand et à l'initiative du ministre de la Justice, Robert Badinter. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le travail et la réflexion de Robert Badinter et ses prises de position, et vous rappeler un petit peu comment ça s'est passé, l'abolition en France. Donc, le combat pour l'abolition de la peine de mort pour Robert Badinter commence véritablement après l'exécution de Robert Bontemps le 28 novembre 1978. Bontemps, ça avait été le complice de Claude Buffet dans la prise d'otage d'un surveillant et d'une infirmière à la centrale de Clairvaux. Durant l'assaut, Buffet égorgea le surveillant et l'infirmière, et il avait été établi durant le procès que l'auteur des deux meurtres était Buffet. Mais les jurés décidèrent de condamner les deux, c'est-à-dire Buffet et Bontemps, tous les deux à la peine de mort. Cette condamnation, le fait qu'une personne qui n'avait pas tué puisse être tuée par la justice, révolta Robert Badinter, puisque même l'antique loi du talion ne pouvait s'appliquer dans ce cas. Déjà partisan de l'abolition, par exemple dans les années 1960, lors de sa participation à l'émission de Pierre Desgroppes et de Pierre Dumayet, Lecture pour tous, où il réprouve avec véhémence la peine capitale. Donc c'est à partir de cette exécution, en 1972, qu'il devint le partisan déterminé de l'abolition de la peine de mort. Et c'est principalement pour cette raison qu'il accepta de défendre, alors dans votre mémoire, pour ceux qui sont un petit peu plus, qui ont notre âge, il a accepté de défendre Patrick Henry, puisque durant le mois de janvier 1976, le petit Philippe Bertrand, âgé de 8 ans, fut enlevé, et quelques jours plus tard, Patrick Henry fut interpellé par la police, et il désigna lui-même le dessous de son lit où se trouvait le corps du petit garçon enveloppé dans une couverture. Ce qui révolta le plus l'opinion publique française, ce fut le comportement de Patrick Henry durant l'enquête, avant son interpellation définitive. Quelques jours après l'enlèvement de l'enfant, les policiers le suspectaient déjà, mais faute de preuves, ils avaient dû le relâcher. Et le criminel s'exhiba ensuite devant les caméras pour dire à qui voulait l'entendre que les kidnappeurs et les tueurs d'enfants méritaient la mort. Moi, je me rappelle encore de ça à la télé. Aux côtés de Robert Bocquillon, Roger Badinter assura la défense de Patrick Henry. En accord avec Bocquillon, dont la plaidoirie devait se concentrer sur la personnalité de Patrick Henry, Robert Badinter plaida en forme de réquisitoire contre la peine de mort. Il explique dans son livre « L'abolition » que sa stratégie était de mettre les jurés face à leurs responsabilités en replaçant leur choix de mort ou non au centre des débats, puisque la culpabilité était de son côté évidente. Il s'appuya notamment sur une formule marquante d'une lettre de Buffet au président Pompidou qui l'avait inspirée. Donc Buffet, c'est un des deux condamnés là, de 1972 et qui avait écrit au président Pompidou « Guillotiner, ce n'est rien d'autre que prendre un homme et le couper vivant en deux morceaux ». Patrick Henry échappa à la peine de mort et il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Et une autre citation aussi qui est dans le livre de Badinter, c'est « Lorsque l'avocat voit tomber le couperet de la guillotine sur la tête de celui qui l'a défendu, il ressent d'abord le dégoût, la révolte, une certaine honte aussi, puis le sentiment terrible que c'est fini. Par l'exécution, tout est consommé. Vous ne pouvez plus rien. C'est la défaite totale, définitive. » Et donc, je vais en venir quand même à la promulgation de cette loi. Donc, le 10 mai 1981, François Mitterrand, dont l'abolition était un des engagements de campagne, est élu président de la République. Dès le 8 juillet, lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Pierre Mauroy, annonce l'abolition de la peine de mort. Et un projet de loi en ce sens est présenté au Conseil des ministres le 26 août par le nouveau garde des Sceaux, Georges Badinter. Le 29 août, le projet de loi est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et donc l'exposé des motifs est le suivant. « Mesdames, messieurs, un pays épris de liberté ne peut, dans ses lois, conserver la peine de mort. C'est un impératif pour la liberté que de n'accorder à quiconque un pouvoir absolu tel que les conséquences d'une décision soient irrémédiables. C'en est un autre que de refuser l'élimination définitive d'un individu, fût-il un criminel. Une justice qui se dérobe à cette double exigence avoue son impuissance et réduit son influence civilisatrice. La peine de mort entérine une faillite sociale. Son abolition répond à un principe éthique. Le rejet de la peine capitale, constamment réclamé par les grands courants de pensée et plusieurs fois évoqué devant les assemblées parlementaires, n'avait jamais pu encore s'imposer clairement à la conscience collective, comme si la nation tout entière, agitée depuis deux siècles de ce tourment, n'osait s'en débarrasser. Or, le principe en est désormais tacitement admis, puisque le peuple français s'est prononcé à deux reprises pour des candidats qui se réclamaient de l'abolition. Il faut donc en tirer les conséquences et traduire dans nos lois un choix auquel les électeurs ont implicitement consenti. En rappelant que les études faites conduisent à la même conclusion, il n'existe entre l'évolution de la criminalité sanglante et l'absence ou la présence de la peine de mort aucune corrélation. Le moment est venu pour la France, qui fut si souvent à l'avant-garde des libertés et du progrès du droit, de combler le retard qu'elle a pris en ce domaine par rapport aux pays d'Europe occidentale qui refusent un châtiment considéré comme une peine inhumaine, dégradante ou cruelle. Enfin, c'est une partie du discours de Badinter, mais en ces temps un peu troublés, où nous avons deux petites de discours, j'aime bien rappeler ces gens qui ont tissé un petit peu notre état de droit. Et j'aime bien dire état de droit. Voilà. Trop longtemps accrochée à cette survivance d'un autre âge, la France se trouve aujourd'hui, du fait d'un profond renouveau intérieur, c'était en 1981, en mesure de rejoindre une opinion internationale qui, par la voie d'organisations diverses, et tout récemment par celle du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée des communautés européennes, s'est prononcé sans ambiguïté contre le maintien de la peine de mort. Voilà. Donc du coup, la peine de mort a été abolie en France le 9 octobre 1981 et promulguée au journal officiel le 10 octobre, qui est maintenant la journée internationale, mais ce n'est pas à cause du 10 octobre en France, hein, mais la journée internationale pour l'abolition de la peine de mort. Voilà, j'ai fait le petit tour.
Je me souviens très bien, effectivement, de ce jour-là, quand le Parlement français de l'époque a voté l'abolition de la peine de mort, et c'est vrai qu'on était tous très contents de cette décision.
Juste vous rappeler qu'il y avait quelques pionniers contre la peine de mort en France, et il y a aussi une citation d'Albert Camus que j'aime beaucoup. Beaucoup de législations considèrent comme plus grave le crime prémédité que le crime de pure violence. Mais qu'est-ce donc que l'exécution capitale, sinon le plus prémédité des meurtres, auquel aucun forfait criminel, et si calculé soit-il, ne peut être comparé? Et beaucoup plus ancien encore, Voltaire, qui était un philosophe, hein, en 1694-1778, il vaut mieux hasarder de sauver un coupable que de condamner un innocent. Voilà, c'est bien dit.
Tout à fait. Voilà. Et il y a plein d'autres...
Il y avait Jean Jaurès aussi, mais bon, j'avais surtout envie de vous parler de Roger Badinter, parce qu'il existait, et je pense qu'il en existe encore, des hommes politiques intègres, avec une éthique et capables de porter de défendre des valeurs et des droits humains. Et il en était, et c'est un des fondements de notre République.
Un très beau résultat pour les gens qui ont combattu. Et moi, je veux juste une petite anecdote. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Amnesty, il y avait encore des affiches posters, c'était la mode. Et il y en avait une où c'était Gaston Lagaffe, qui racontait un peu son cauchemar sur la peine de mort. Et l'image, c'était « Celui qui tuera sera tué ». Et on voyait le pauvre... personne tuée par le bourreau, et puis un autre bourreau qui tuait le bourreau derrière, et un bourreau qui tuait l'autre bourreau, puisque forcément, c'est absolument l'illogisme de cette peine de mort ne servait à rien. C'est vrai, quelque chose qui m'avait frappé en tant que un peu plus jeune, on va dire.
Tout à fait. Il y a énormément d'arguments en faveur de l'abolition de la peine de mort, effectivement. Voilà. Un autre, c'est que la justice des hommes étant forcément imparfaite, si on est pour la peine de mort, on accepte qu'un jour ou l'autre, la justice, l'État en question, tue des innocents.
Quand on voit aux États-Unis, avec maintenant, ou même enfin, les pays où il y a encore la peine de mort, avec les analyses ADN, alors s'ils sont encore vivants, on peut les libérer en disant on s'est vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup trompé, encore que là, c'est quand même assez terrible. Mais s'ils ont été guillotinés ou électrocutés, tout à fait.
On va changer de sujet. Je crois qu'Edith, tu voulais nous parler.
Je continue, c'est pour ça, je m'entraîne à parler, là, voilà. Donc moi, la Tunisie, je passe, vous savez que j'aime bien parler des pays dont on ne parle pas beaucoup forcément. Et la Tunisie, bien le 6 octobre dernier, ça a été, c'était les élections présidentielles. Alors je ne sais pas si vous avez le nom du président qui a été réélu. C'est toujours le même, hein, c'est Kais Saied. Il a été réélu avec le taux de participation le plus faible depuis le printemps arabe. Donc il y a eu 27% des électeurs tunisiens qui l'ont réélu. Alors on peut peut-être quand même se rendre compte que Amnesty dit qu'il y a beaucoup de raisons pour être inquiet sur la dérive autoritaire de ce pouvoir. Et comment expliquer un petit peu que ce président, Kais Saied, c'est un ancien professeur de droit. Alors lui, tu vois, Claire Lise, bon, il n'a pas tourné comme Badinter. Hein. Professeur de droit élu démocratiquement à la tête de l'État en 2019 et qui aujourd'hui ravive les heures sombres de la dictature en Tunisie. Donc il y a un petit point sur l'article d'Amnesty en 5 points. Donc 1, ce président a les pleins pouvoirs. Le 25 juillet 2021, la dérive autoritaire pourrait prendre date en ce jour où le président Kais Saied a opéré son coup de force. Il limoge le Premier ministre, gèle les travaux du Parlement et prend le contrôle exécutif du pays. Son objectif affiché, répondre à la crise politique traversée par la Tunisie où les partis sont émiettés et où la corruption battait son plein. En réalité, depuis ce 25 juillet 2021, Kais Saied a commencé à détricoter les acquis de la révolution du printemps arabe de 2011. Il a démantelé le régime parlementaire mis en place au lendemain de la Révolution pour concentrer l'essentiel du pouvoir entre ses mains. 2. L'indépendance de la justice attaquée. Le 5 février 2022, le président Saïed a dissous le Conseil supérieur de la magistrature, le dernier bastion de l'impartialité judiciaire né après la révolution tunisienne de 2011 pour protéger les juges de l'influence du gouvernement. Suite à cette dissolution, Kais Saïed révoque 57 juges sans préavis sur la base de vagues accusations. Le système judiciaire est mis au pas. Le 25 juillet 2022, un an jour pour jour après son coup de force, Kais Saïed fait adopter une nouvelle constitution par référendum, avec là aussi un taux de participation très faible, qui affaiblit considérablement l'indépendance judiciaire. Cette immixtion dans le système judiciaire se poursuit dans le cadre des élections présidentielles du 6 octobre. Donc il y a eu une institution chargée d'organiser le bon déroulement des élections, c'est l'instance supérieure indépendante pour les élections. Et cette institution a fait aussi un nettoyage sur les candidats, sur la possibilité de savoir ce qui se passait. Enfin voilà, je veux vous en parler un petit peu plus tard. Bon, ce qui se passe aussi en Tunisie, ce sont des arrestations massives. Les principaux opposants au président Kais Saïed, qui aurait pu se représenter comme candidat à l'élection présidentielle, sont aujourd'hui en prison. C'est carrément facile. Là, il n'y a plus besoin de faire campagne. Hein. Accusé d'avoir fait des dons pour influencer les électeurs. En 2 jours seulement, le 12 et le 13 septembre 2024, 97 membres du parti d'opposition Ennahda sont arrêtés et ils font désormais l'objet d'une enquête pour des accusations de complot. Alors, il y a aussi plein d'arrestations en dehors de cette période préélection. Le 11 mai 2024, des hommes cagoulés débarquent en pleine nuit dans la maison des avocats à Tunis et arrêtent violemment Sonia Damani, avocate tunisienne de renom. Une arrestation filmée en direct par les caméras de France 24 qui démarrait un duplex au moment où les policiers en civil ont fait irruption dans la maison des avocats. Sonia Damani a été arrêtée suite à des propos qu'elle avait tenus sur un plateau télévisé qui critiquait la politique migratoire des autorités tunisiennes. Donc elle a dit « Mais de quel pays extraordinaire parle-t-on ? Celui dont la moitié des jeunes veulent quitter. » Alors pour cette farce, Sonia Damani a été condamnée à 8 mois de prison, accusée de diffuser des fausses informations. Alors ça continue, le quatrième point, c'est la liberté de la presse en recul. L'un des nombreux acquis de la révolution de 2011 aura été la liberté de la presse. Mais là, maintenant, c'est terminé. Entre l'instance en charge pour l'indépendance des élections qui a tenté de restreindre la couverture électorale dans les médias, 4 stations de radio privées ont reçu des avertissements suite à des reportages pointant le processus électoral. Pour son numéro de septembre, le magazine Jeune Afrique avait consacré sa une au président tunisien. Le portrait de Kais Saïed sort derrière l'ombre d'un drapeau tunisien avec en titre « L'hyper-président ». Eh bien, les autorités ont interdit la diffusion de ce numéro en Tunisie. Jeune Afrique dénonce un triste retour aux années Ben Ali. Il y a des attaques aussi sur les médias. Il y a une loi qui est sortie qui sanctionne de lourdes peines de prison le fait de partager de fausses informations en ligne. Cela est défini de façon très vague et ambiguë. Et par rapport à ces élections, les observateurs qui devaient voir le bon ou vérifier le bon déroulement des élections ont été mis au pas. 2 ONG tunisiennes, on leur a dit qu'ils avaient reçu des fonds étrangers suspects et ils n'ont pas pu être attentifs aux conditions des élections. Alors voilà ce qui se passe en Tunisie. Donc Amnesty demande que ça soit un peu dénoncé par les pays qui ont des relations avec la Tunisie. Et nous, on surveillera toujours ce qui se passe en Tunisie, on continuera, mais c'est bien soucieux.
Oui, c'est étonnant comme tous les gouvernements qui répriment partout dans le monde utilisent toujours les mêmes argumentaires. Hein. Fausse, soi-disant, atteinte à la sûreté de l'État, fausse déclaration, agent de l'étranger, ce qui est devenu une accusation extrêmement à la mode. On retrouve ça effectivement en Russie, on retrouve ça à droite et à gauche, et toujours basé effectivement sur des informations.
Et des tricotages de tous les textes légaux.
sont des informations complètement farfelues. On vous passe la deuxième pause musicale parce que la pendule tourne et on se retrouve juste après.
Broken early promise, put trust in an unknown, fell headlong into the arms of the fuss that stirred me, unsteady to steady heart. Took me to a place I've never been, a place I've never been since. Stopped hoping at an early age, stopped guessing at an early age, accepting things from day one, and then things can't go too wrong. Just let them walk all over you, laugh through the punches and the pain, let the lifeblood drain away. An angel gives up the ghost, and you can see it in the way they look at you, feel it in the way they treat you. Always the last to know, always the first to leave. Just let them walk all over you, laugh through the punches and the pain, let the lifeblood drain away from you. They're right, you're wrong.
Retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc, on vient d'écouter un disque qui est sorti très récemment, mais que j'aime bien. C'est pour
tu l'as un petit peu guillotiné, hein, quand même.
Claire Lys, franchement.
Non, mais il ne nous en voudra pas. Il s'appelle David Gilmour. Alors, je sais bien que les jeunes qui nous écoutent ne voient pas vraiment qui c'est. Non, il était guitariste du groupe Pink Floyd. Voilà. Le groupe n'existe plus, mais vient de refaire un disque et on a extrait ce morceau-là de ce disque.
Et c'est pas sa voix, là, qu'on a entendu.
C'est pas sa voix, c'est la voix de sa fille. Ah, c'est sa fille qui chante. Voilà.
C'était joli.
Et je trouve le morceau très joli. Oui. Voilà. Et donc, revenons-en à l'abolition de la peine de mort, ma petite Claire-Lise.
Oui, et donc là, je vais vous parler, en fait, plus de... Bah, justement, l'abolition de la peine de mort, c'est un des dossiers fondateur d'Amnesty International. Amnesty le défend depuis la création de l'ONG. C'est la lutte, entre autres, la lutte contre la peine de mort. Donc, dès nos débuts, nous nous sommes mobilisés afin que le prisonnier d'opinion ne soit pas exécuté. Progressivement, notre opposition à la peine capitale s'est élargie à l'ensemble des condamnés, quels qu'ils soient, et quels que soient les crimes reprochés ou les méthodes d'exécution utilisées. Nous avons été la première organisation de défense des droits humains à inclure l'abolition de la peine de mort dans notre mandat dans les années 1970. Et c'est à l'occasion de la Conférence internationale sur l'abolition de la peine de mort que nous avons organisée à Stockholm en 1977 que les initiatives distinctes pour l'abolition se sont reliées les unes aux autres et un nouveau mouvement mondial a commencé à s'organiser. Cette conférence s'est conclue par l'adoption de la Déclaration de Stockholm qui demande à tous les États d'abolir immédiatement et totalement la peine de mort. Donc ça, c'était aussi une des dates fondatrices par rapport à la lutte pour l'abolition de la peine de mort.
Clarisse, je fais juste un lien par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à M. Badinter dans la chronique précédente, c'est que Robert Badinter était présent à cette conférence à Stockholm et qu'il représentait même Amnesty International France.
Mais oui, c'est bien pour ça que je l'aime autant, ce monsieur. Ça ne se sentait pas, peut-être.
Non, à peine. Mais c'est tout à fait justifié.
Alors, ensuite, parce que je ne voudrais pas perdre le fil, au niveau de Amnesty International, ce que nous demandons, c'est que la peine de mort et la torture soient... la peine de mort et la torture sont la négation absolue des droits humains. Aucun être humain ne doit y être soumis. Donc, nous exigeons l'abolition universelle de ces pratiques et nous nous battons pour que les pays qui utilisent encore la peine de mort adoptent des moratoires et cessent toute exécution. Que les pays qui ont déjà pris des moratoires doivent définitivement modifier leur législation pour abolir la peine de mort. Que toutes les peines capitales déjà prononcées soient commuées en peine d'emprisonnement. Que les gouvernements condamnent sans réserve le recours à la torture et que les actes de torture fassent systématiquement l'objet d'une enquête et que les auteurs présumés soient poursuivis en justice. Les États préviennent les actes de torture en formant les fonctionnaires en prenant des mesures pour éviter que ces actes ne soient commis lors d'arrestations, en garde à vue ou en détention. Voilà. Et donc, trois choses à faire pour soutenir notre combat pour l'abolition universelle de la peine de mort en cette journée internationale contre la peine de mort. La peine de mort pour étouffer les voix féministes en Iran. À la suite du soulèvement Femme, Vie, Liberté, les autorités iraniennes ont intensifié leur recours à la peine capitale, tu le rappelais tout à l'heure.
Et les jeunes surtout.
Et au moins 953 exécutions ont été enregistrées en 2023. En 2024, elles ont poursuivi les exécutions à un rythme alarmant, procédant à au moins 274 exécutions au cours des 6 premiers mois de l'année. Selon le centre Abdurrahman Bourhoumand pour les droits humains en Iran. En Iran, le recours à la peine de mort est fréquent contre les manifestants, les dissidents, les membres de groupes minoritaires, notamment celles et ceux qui s'élèvent contre les voix injustes et discriminantes qui ciblent les femmes dans le pays. Donc nous vous demandons de participer à cette action et de demander la libération immédiate et sans condition de Sarifeh Mohammadi, qui a été condamnée à mort par la première chambre du tribunal révolutionnaire de Rasht en juin 2024. Elle a été déclarée coupable de rébellion armée contre l'État uniquement en raison de ses activités pacifiques de défense des droits fondamentaux, notamment pour avoir soutenu les droits des femmes et des travailleurs et travailleuses, ainsi que l'abolition de la peine de mort. En prison, elle a déposé une plainte pour torture qu'elle a dû retirer après avoir été menacée par les autorités. Aucune enquête sur ces allégations n'a été menée. Aujourd'hui, elle risque elle-même d'être exécutée à la prison de Lacan, dans la province du Gilan, à la suite d'un procès d'une iniquité flagrante. Donc, on passe à l'action. Nous pouvons nous mobiliser pour l'annulation de sa peine et la libération immédiate et sans condition en contactant Gholaman Hossein Mohseni Ejei, le responsable du pouvoir judiciaire, par email. Ensuite, il y a une action aussi par rapport à l'abolition de la peine de mort au Kenya. Donc la dernière exécution recensée au Kenya a eu lieu en 1987. Bien que le pays n'ait pas aboli officiellement la peine de mort en pratique, il ne procède à aucune exécution. Les tribunaux kényans prononcent toujours des condamnations à la peine de mort, mais le pays a progressé de matière notable sur la voie de l'abandon de la peine capitale. Donc le 24 octobre 2016, donc le président Kenyatta révisait en peine de réclusion à perpétuité les condamnations à mort visant 2747 personnes. Près d'un an après, en décembre 2017, la Cour suprême déclarait que l'obligation de prononcer la peine de mort en cas de déclaration de culpabilité dans les affaires de meurtre était contraire à la Constitution. Aujourd'hui, 4 propositions de loi en vue de l'abolition de la peine de mort sont en cours d'examen à l'Assemblée nationale au Kenya. Donc il faut soutenir ces propositions de loi, interpeller les autorités kenyanes sur Twitter, pour pouvoir soutenir ces propositions de loi. Et puis quand même la peine de mort pour museler les voix dissidentes en Arabie Saoudite.
Ah, ça, oui.
Malgré les promesses répétées de limitation du recours à la peine de mort, les autorités saoudiennes ont intensifié le rythme des exécutions cette année, tout en continuant de bafouer systématiquement les droits de la défense et les normes internationales en matière d'équité des procès. 198, c'est le nombre de personnes qui ont été exécutées depuis le début de l'année 2024 en Arabie Saoudite. C'est un record depuis 1990. Je suis désolée, je ne peux pas aller plus vite, Edith.
Non, mais c'est parce que je vois...
Et le nombre d'exécutions dans des affaires de stupéfiants a grimpé en flèche cette année, avec 53 personnes exécutées jusqu'à présent. Donc, en mars 2024, nous avons analysé le projet de code pénal de l'Arabie Saoudite. Il codifie la peine de mort et laisse au juge un grand pouvoir discrétionnaire pour prononcer des condamnations à mort pour meurtre, viol, blasphème ou apostasie. Donc aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale contre la peine de mort, partagez des informations sur la situation désastreuse des droits humains en Arabie Saoudite avec vos proches pour les sensibiliser. Et nous le répétons, nous nous opposons en toutes circonstances et sans aucune exception à la peine de mort, quelle que soit la nature et les circonstances du crime commis, la culpabilité ou l'innocence, ou toute autre situation du condamné ou de la méthode utilisée pour procéder à l'exécution. Sachant que notre action, et grâce à la mobilisation internationale, des personnes ont déjà échappé à la peine de mort, notamment, tu me le disais tout à l'heure, Didier, après 45 ans dans les couloirs de la mort, le japonais Hayao Akamada est enfin libre. Voilà. Et donc ça, c'est grâce à la mobilisation internationale qu'il a pu retrouver la liberté. Voilà, donc il y a une mobilisation, et il y a toujours des pétitions à signer.
Allez voir sur le site d'Amnesty, effectivement amnesty.fr, et participez à toutes nos actions, signez les pétitions, renseignez-vous, n'hésitez pas, enfin, etc. etc. Vous
tapez, ça marche. Ah, je suis désolée, mais c'est un très très vaste sujet, l'abolition de la peine de mort. Et,
vous tapez abolition de la peine de mort, vous aurez tous les renseignements.
Tu l'as mis en 3 morceaux, c'était très bien.
Bon, voilà. Donc on en revient à nos actualités locales.
Alors, Didier,
et je le disais en début d'émission, donc le vendredi 25 octobre prochain, donc vendredi de la semaine prochaine, à 19h30, nous organisons chez nos amis de la Brasserie Sport à Gravigny un ciné-débat sur la répression des manifestations en France. Et pour présenter ce ciné-débat, pour le nourrir, si on peut dire,
il y a un film.
Vous êtes passé ce film réalisé il y a 3 ans, si ma mémoire est bonne, par Amnesty International France, qui s'appelle « Présumé coupable » et qui parle de cette répression des manifestations en France. Donc, quelques mots sur pourquoi ce film et ce qu'il dit. Alors voilà ce qu'en dit effectivement Amnesty. En France, ces dernières années, la répression des manifestations est d'une ampleur inédite. Nous l'avons documenté, de nombreux manifestants pacifiques se retrouvent dans le viseur des autorités. Nous l'avions analysé en septembre 2020 lors de notre enquête qui s'appelait « Arrêtez pour avoir manifesté ». À cette date, nous lancions l'alerte sur la stratégie dite de judiciarisation du maintien de l'ordre. Un an après, Présumé coupable, réintègre le sujet en donnant la parole aux victimes. Les témoignages sont ponctués par l'analyse d'experts et d'avocats. Un documentaire important qui, nous l'espérons, sera replacé au cœur de la réflexion et des débats la protection de ce droit fondamental qu'est notre droit de manifester. Alors un chiffre, 40 000, c'est avec ce chiffre que s'ouvre le documentaire. Lors de la crise des Gilets jaunes, 40 000 personnes ont été abusivement condamnées en France. 40 000. L'un des problèmes majeurs que nous dénonçons, c'est le fait que des manifestants, qui n'ont pourtant commis aucune violence, soient interpellés, placés en garde à vue et parfois même poursuivis et condamnés. Le documentaire, donc présumé coupable, alerte sur des lois françaises qui sont utilisées comme des armes de répression contre les manifestants. Cette stratégie dite de judiciarisation du maintien de l'ordre est présentée comme visant à arrêter des casseurs, entre guillemets. Et pourtant, elle conduit à l'arrestation de manifestants pacifiques. Tant que ce cadre juridique existera, le droit de manifester sera menacé en France. La gestion des manifestations devrait être un équilibre entre maintenir un ordre public et faciliter le droit de manifester. Sauf qu'aujourd'hui, c'est l'ordre qui a pris le dessus. Alors voilà ce que dit Amnesty. Donc Amnesty précise que dans ce film, il y a des témoignages donc de Frédéric Villaume, syndicaliste, Odile Martin, militante toulousaine, Brice Ivanovitch, journaliste français basé à Paris, et Lara, mère d'un manifestant mineur. Tous ont subi des arrestations arbitraires, le stress des gardes à vue et pour certains, des poursuites judiciaires. Et effectivement, leurs témoignages sont alternés avec des séquences où la parole est donnée à des experts, des avocats et à des experts du droit qui rappellent la nécessité de respecter le droit de manifester pour les manifestations pacifiques, bien évidemment. Voilà.
Donc, alors on vous attend tous.
On vous attend, on sera là pour animer le débat. Vous écoutez, répondre à vos questions.
Donc présumé coupable, c'est le groupe d'Evreux, effectivement, vous l'avez entendu, qui va animer le débat qui va suivre. Et c'est donc, je n'ai pas précisé, mais je le rappelle, que l'entrée est gratuite. Il n'y a donc pas d'entrée à payer. Et
c'est que donc, les consos.
C'est donc, oui, les consos pour la brasserie sport. C'est donc le vendredi 25 octobre. Donc la semaine prochaine, à 19h30, à la Brasserie Sport, à Gravigny. Donc on vous attend tous, parce que quand j'ai dit au début de l'émission qu'il est important de continuer à lutter pour les droits humains, et ben ce genre de soirée, ça en fait partie, bien évidemment. Un petit coucou juste avant de finir à
d'actualité
locale aussi. Et là, c'est nos amis de l'Université populaire d'Evreux qui organisent, là c'est vendredi, mais c'est vendredi de cette semaine.
Le vendredi
18. À 18h30, une conférence qui a pour thème le massacre des tirailleurs sénégalais à Rouen, et c'est présenté par Jean-Louis Roussel, professeur d'histoire. Alors, ça fait référence à un épisode de la Seconde Guerre mondiale en 1940, à plusieurs centaines, je crois, de soldats tireurs sénégalais qui avaient lutté aux côtés de l'armée française ont été massacrés par les forces armées allemandes. Et dont un certain nombre ont été massacrés à Rouen, donc voilà. Et ils ont été massacrés uniquement parce que c'était des gens, effectivement, de couleur. Il n'y avait pas d'autre raison. Donc ce rappel historique, cette conférence, aura également, pour thématique, de parler, effectivement, des a priori racistes à travers ce rappel historique de ce phénomène violent de l'année 1940. Donc c'est à 18h30 au lycée Aristide Briand, jeudi prochain. Et bien entendu, c'est comme pour notre soirée projection débat de la semaine d'après, l'entrée est gratuite.
Vendredi prochain.
Vendredi. Pardon.
Oui. Bon, il est un peu fâché avec les dates.
Et la prochaine émission de radio, c'est dans 15 jours.
J'avais noté la date, mais j'ai perdu.
Eh bien, 15 jours. Nous allons calculer.
C'est peut-être le 30.
C'est le 25.
Ah bon.
C'est le 25.
Bon, non, c'est pas possible. Le 25,
c'est pas possible.
C'est vendredi. Je refuse.
Ah ben oui, c'est vrai. Oui, non, je me suis complètement trompé dans mes dates. Donc, c'est quand
bon, vous calculez donc dans 15 jours. 7 bon, et voilà. 7, 14. Et on est le. Je ne sais même pas combien on est.
On est le 15.
Ce sera le 29 parce que le 28, c'est un lundi.
Voilà. Donc, mais surtout, venez le vendredi 25, je rappelle.
Voilà. On vous dira la date de la radio.
C'est ça, à notre ciné-débat.
Et il y a Manu qui est dans le studio, alors il faut le laisser.
On laisse l'antenne et on vous
et
souhaite
on vous dit
une
bonsoir.
Bonne soirée.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.